C'est une bénédiction d'être avec vous aujourd'hui. Premièrement, parce que chacun, chacune est venu pour Dieu. Et c'est un honneur d'ouvrir la Bible avec vous. Je propose de lire dans le chapitre 6 de l'Évangile de Matthieu, les versets 1 à 18. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance, la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Que Dieu soit béni. Ces paroles de notre Maître, du Seigneur Jésus, et que Dieu soit béni qui inspire toute lecture, louange, toute prière parmi ceux qui sont à lui. Je retourne au verset premier. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Le mot justice ici désigne ce que Jésus va dérouler après. Aumône, prière, jeûne, c'est-à-dire la piété et toute expression de la piété. Donc ce qui est juste pour quelqu'un qui est en rapport avec Dieu, ou plutôt pour quelqu'un à qui Dieu a ouvert la relation. Et donc, dès le début, le ton est donné. Ce que vous faites, parce que pratiquer votre justice, on le fait pour Dieu. Si on donne pour aider quelqu'un qui a un besoin financier ou autre, le sens ici, c'est premièrement dans le cadre de l'alliance, l'aumône. Si vous voulez, la première idée, ce n'est pas 2 euros au feu rouge, ici. C'est tout ce qu'on peut faire pour aider ceux qui, dans le corps de Christ, sont en nécessité. Donc, si on fait ça, a fortiori, si on prie et si on jeûne, on le fait pour Dieu. Et là, Jésus dit, gardez-vous de faire ce que vous faites pour Dieu dans le but d'être vu des hommes. Et là, il met le doigt sur les ambiguïtés propres au cœur humain. Et donc, Jésus développe avec l'aumône, avec la prière, et puis après avoir dit les paroles de ce qu'on appelle le Notre Père, et il développe avec le jeûne. Et donc, voilà, c'est pas la récompense des hommes qu'il faut chercher, mais celle de Dieu, et il y en a. Et puis, donc ça c'est un des forts accents, et l'autre accent très fort, c'est que Dieu voit dans le secret. Le mot secret ici, c'est pas les services secrets, c'est simplement dans le secret par rapport aux yeux humains. Mais ton Père voit dans le secret. Et donc je ne vais pas développer davantage ces trois exemples, hein, aumône, prière, jeûne, mais relever que c'est au milieu de tout ça que notre Seigneur donne les paroles de la prière. Autrement dit, avant même d'avoir entendu les paroles de la prière, les disciples ont entendu, c'est pour Dieu, c'est pour Dieu. Alors peut-être on peut s'étonner de dire, ben, on est dans une église, hein, enfin un temple, mais l'église c'est vous et moi, et tant d'autres ailleurs, c'est dans l'église, et Jésus nous dit que si on prie, c'est pour Dieu. Tiens, c'est impressionnant. Là, il y a vraiment quelque chose à entendre. Même si je prie pour demander le pain, le fait que je prie, c'est pour Dieu. Et Jésus dit bien, il sait, avant que vous lui demandiez, il sait. Et la différence entre rabâcher, le verset « multiplier les vaines paroles » peut se traduire « rabâcher », ne rabâchez pas. La différence entre rabâcher pour les païens et prier pour les disciples de Jésus, c'est à eux qu'il parle. Hein, c'est très clair aux deux premiers versets du chapitre 5. Pour les disciples de Jésus, prier, c'est venir vers le Père qui est aux cieux en sachant qu'il sait. Donc si je prie pour demander le pain, ce n'est pas pour convaincre, c'est pas pour informer Dieu que je manque de pain, ni même pour le convaincre de pourvoir. On va dire, alors pourquoi on prie ? Pour être avec lui. Je peux courir après le pain de mille manières. Et accessoirement, même ceux qui prient, ils travaillent pour gagner leur pain. Quand ils peuvent. Hein. Donc, on peut faire les choses sans lui. Mais on fait les choses en priant pour être avec lui. Et donc c'est la tonalité de tout le paragraphe qu'on a lu là, Matthieu 6, versets 1 à 18. La tonalité, elle est là, c'est pour Dieu, c'est son approbation qui compte, c'est son regard qui compte. Et humblement comme des enfants, nous ouvrons nos cœurs pour que s'imprègnent les premiers mots là de Jésus, donc au verset 9, notre Père, notre Père. Notre Père, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, Dieu est appelé Père en tout 14 fois. Et l'Ancien Testament est écrit sur pas loin de 1000 ans. Et le volume est immense. 14 fois, dont 7 fois dans la bouche de Dieu. Et le reste, un peu David, un peu Ésaïe, peut-être que j'en manque un autre. Voilà, 14 fois. Dans le Nouveau Testament, écrit sur une trentaine d'années et beaucoup, beaucoup moins volumineux, Dieu est appelé Père à peu près 250 fois. Dont 250, dont 200 dans la bouche de Jésus. Et donc, ce n'est pas n'importe qui nous met les mots dans la bouche. C'est le Seigneur Jésus. Quand vous priez, dites deux points. Donc ici, ce n'est pas les mots exacts, dans Luc, c'est ça. Quand vous priez, dites deux points, notre Père, ou dans Luc, c'est Père. Et en fait, ça, il faut le comprendre et l'entendre avec les mots de Paul, de Pierre, et il y en a encore d'autres dans le Nouveau Testament, qui qualifient Dieu et probablement la plus utile pour nous qualification de Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous voulez connaître le Père, en aucun cas ça ne peut être « Bon, je connais Jésus, c'est bon, merci Seigneur, maintenant je vais monter plus haut. » Ça n'a aucun sens bibliquement. C'est par Jésus que nous connaissons le Père, mais par, ça ne veut pas dire que Jésus est comme un chemin de passage transitoire. Non, c'est en étant lié à lui, joint à lui par Dieu, c'est en étant joint au Seigneur Jésus que Dieu est, c'est là où Dieu est notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Et dès le premier verset, Jésus le dit, vous n'aurez pas de récompense, si vous cherchez la récompense des hommes, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc là, il y a la perspective maximum, ultime, définitive, votre Père qui est aux cieux. Et là, j'ai quelque chose que j'ai dans mon cœur de dire quelque chose, c'est que, en fait, c'est de là, j'ai lu ça dans un dictionnaire biblique, je pense, de Westphal, un ancien dictionnaire biblique. Comment définir la crainte de Dieu? Et donc, il explique que la crainte de Dieu, c'est le sentiment incroyablement imprimé dans le cœur, le sentiment de la vertigineuse disproportion qu'il y a entre lui et nous. Mais comme c'est avec le Seigneur, comme c'est dans sa grâce et avec son Fils, cette vertigineuse disproportion, au lieu de créer un sentiment de distance, d'éloignement, de peur, que sais-je, elle rassure. C'est-à-dire, il est tellement plus grand que moi. Et là, c'est le cœur d'enfant qui se réjouit, Et c'est le cœur d'enfant qui doit entendre et lire, c'est « Votre Père, il est aux cieux ». Donc en aucun cas, il va être noyé dans tout ce qui se passe sur terre, ou tout ce qui bouillonne ici-dedans, et les tentations, et la famine, et même le diable, il est aux cieux. Et donc il est aux cieux, ça ne veut pas dire qu'il est absent ici. Dieu se rend présent. Non seulement il est omniprésent, mais il se rend particulièrement présent pour les siens. Donc, il est dans les cieux, et du coup, ben, c'est son regard qui compte, c'est lui qui voit. On est content que Dieu voit dans le secret, au lieu d'avoir peur qu'il ne voit mes fautes. Je vous le dis sincèrement. J'ai bientôt 72 ans. J'ai été sauvé à l'âge de 17 ans, donc ça va faire bientôt 55. Je suis content que Dieu voie mes fautes. Parce qu'il n'y a que lui qui peut s'en occuper comme il faut. Et par son esprit, il me les montre, il me réprimande. Quand je n'ai pas vu, il parle. Si je n'écoute pas, il reparle. Enfin, etc. Il est aux cieux. Alors, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié par Dieu ou sanctifié par nous? Je mets mes lunettes pour voir. Sanctifié par lui ou sanctifié par nous? Premièrement, lui. Et donc, c'est ce qu'il dit à Moïse. Hein, on lit dans Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit. C'est la deuxième fois où Moïse monte sur la montagne. Après le veau d'or, ça en dit long. L'Éternel descendit et se tint là, près de lui, de Moïse. Et il proclama, il passa devant lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel, l'Éternel, lent à la colère, riche en amour et en fidélité, qui est aussi vérité. Le premier qui proclame le nom de l'Éternel comme il doit être proclamé, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Ce n'est pas premièrement nous qui faisons que la gloire de Dieu soit davantage manifeste parmi les hommes, du moins parmi ceux que Dieu appelle. Ce n'est pas nous premièrement. Nous y avons un rôle, bien entendu, mais c'est lui premièrement. Et donc, que ton nom soit sanctifié, c'est une demande évidemment adressée au Père qui est aux cieux, une demande que lui se manifeste. Et c'est bien ce qu'il dit dans Ézéchiel 36, versets 22-23, où il dit « Ce n'est pas à cause de vous, maison d'Israël, que j'agis de la sorte, c'est à cause de mon grand nom. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané, et il précise même que vous avez profané parmi les nations, etc. » Vous voyez, donc que ton nom soit sanctifié, c'est d'abord... c'est un peu la même idée que ce psaume que beaucoup chanté de tout temps, mais spécialement devant la réforme évidemment, depuis la réforme évidemment, que Dieu se lève. Et à l'instant, tout va être différent. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alors ici, il faut par docilité envers le texte biblique, il faut écarter l'idée qu'on pourrait avoir en lisant simplement en français juste ce bout de phrase, « Que ton règne vienne », et si on voulait ignorer le reste des Écritures, on pourrait se dire « Bon, mais Dieu, il ne règne pas encore, et il faut quand même qu'il règne, donc il faut qu'on établisse son règne ». La Bible ne dit jamais, et alors ça fait 40 ans que je le vérifie dans les textes, ne dit jamais que nous devons établir le royaume de Dieu, établir son règne. Il dit que nous le recevons, il dit que nous le croyons, il dit, le texte dit que nous le prêchons, donc en résumé que nous le recevons et le servons, mais nous ne l'établissons pas. Et pourquoi ? Parce qu'il règne déjà. Absolument. Dieu ne peut pas régner plus qu'il ne règne maintenant. Simplement, dans la petite sphère humaine, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Et donc, pas mal de personnes, peut-être ton beau-frère, peut-être ta voisine, ou mon cousin, ou le plus jeune de mes frères, aujourd'hui, peut-être, il a besoin que Dieu ouvre les yeux pour qu'il ou elle voit qu'en fait, que Dieu, il est aux cieux et qu'il règne. Et d'ailleurs, Jésus, vers la fin de la prière, enfin, il finit, il conclut la prière en disant « Car c'est à toi qu'appartient le règne. » Donc, que ton règne vienne, pourquoi ? Non pas parce que tu ne régnerais pas, mais parce que c'est à toi qu'est le règne. Alors, du coup, qu'il vienne, ben, c'est la même idée qu'au verset suivant, « Comme au ciel, aussi sur la terre. » D'accord ? Et donc, qui fait que son règne se manifeste, c'est l'idée, soit vue, que la visibilité de son règne s'élargisse, si vous voulez. Son règne, il a toute sa largeur déjà, mais la visibilité du règne. Qui fait en premier que cette visibilité s'élargisse ? Mais Dieu, par son Esprit Saint, les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre, hein, l'Apocalypse 5, qui est une citation de je ne sais plus quel texte de l'Ancien Testament. Plénitude de l'Esprit de Dieu qui agit parmi les hommes. Que ta volonté soit faite. Je relève rapidement. Jésus n'a pas dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que notre volonté soit faite. Mais que ta volonté. Quasiment toutes ces choses que je relève à partir de ce texte ont été dites dans les prières, et dès la première prière tout à l'heure, et dans les lectures, et dans des paroles de chant, quasiment tout a été dit. Et ça c'est parce qu'on est venu pour Dieu. Et c'est parce que l'Esprit de Dieu agit et aussi qu'il nous fait venir pour lui, alors il nous parle. Donc, littéralement ici, la deuxième moitié du verset 10, que ta volonté soit faite, comme au ciel, aussi sur la terre. C'est le ciel qui est mentionné en premier, évidemment, parce que dans les cieux, la volonté de Dieu, elle est faite. Et de nouveau, il faut réfléchir, faite par Dieu ou faite par nous ? Mais même quand elle est faite par nous, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc encore là, c'est Dieu qui est premier. C'est capital. Donc c'est triple demande, ton nom, ton règne, ta volonté. Plus Dieu agit et plus cette triple demande est en cours de réalisation, plus les trois demandes suivantes coulent bien. Autrement dit, si je veux que les trois demandes suivantes donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous. Si je veux que ces trois demandes dans ma vie ne soit pas une lutte permanente, que ça coule bien par sa grâce, eh bien, priorité aux trois premières. Manifeste-toi, Seigneur. Et puis, bien sûr, donne-nous le pain. Manifeste-toi. Sanctifie ton nom. Et bien sûr, pardonne nos fautes. notre pain de ce jour, quotidien. Merci. Ça, c'est les demandes d'enfants, ça. Ça, c'est des demandes d'enfants. L'enfant tout petit, il calcule pas est-ce qu'il y a assez de pain pour toute la semaine. Hein. Alors, je veux pas dire que si dès qu'on calcule quelque chose, on pêche. Bon, Jésus, il a même dit de calculer le prix de la tour. Globalement, c'est une tournure de cœur. Ne vous inquiétez de rien, votre Père sait. Voilà, donne-nous aujourd'hui. Et puis, verset 12, alors littéralement, et c'est pas c'est important, remets-nous nos dettes. Et là, ça souligne quelque chose de particulier que Jésus va encore souligner, mais d'une manière choc, avec la parabole du serviteur impitoyable, un serviteur qui doit 10 000 deniers à son maître, et le maître lui parle. Et donc, ce n'est pas remboursable. Et donc, si vous voulez, quand Jésus dit, quand vous priez, dites « Notre Père, remets-nous nos dettes », ici, nos dettes, c'est le péché. C'est nos péchés. Remets-nous nos dettes. Il est en train, là, il nous met dans une position d'enfant, mais de tout petit, petit enfant, ou de vieillard, mais humble, 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 lucide, conscient de cette vertigineuse disproportion. Ce n'est pas remboursable. Jamais je peux rembourser Dieu de l'offense que le péché est. Vis-à-vis de son nom, de sa sainteté. Donc, remets-nous nos dettes. Donc, jusque-là, c'est formidable. Le petit enfant, il est confiant, le vieillard, il est apaisé. Et puis, Jésus continue, et ici, on va dire, « Ah, Seigneur, tu nous poses un problème. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi, nous avons remis au passé à ceux qui avaient des dettes envers nous. » Alors pourquoi il dit ça? En aucun cas pour annuler tout ce que les Écritures disent depuis très longtemps avant que Jésus ne soit incarné et qui disent que c'est Dieu qui pardonne, lent à la colère, riche en bonté, qui pardonne, qui punit aussi. Mais voilà, pas du tout pour annuler que le premier qui pardonne, c'est Dieu. Vous voyez, un verset de la Bible ne peut pas avoir une signification qui bouscule, renverse et annule tout le reste de la Bible. C'est très important ce principe-là pour comprendre les Écritures. Donc, ce n'est pas pour tout bousculer. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste probablement, alors je ne pense pas avoir tout compris, dans la deuxième phrase du verset 12, mais il reste que Jésus parle à des disciples. De même que le texte qui a été lu tout à l'heure dans Colossiens 3, si quelqu'un a sujet à se plaindre d'un autre, pardonnez-vous, comme Christ vous a pardonné. Et juste avant, ce qui est écrit, ce que le Saint-Esprit fait écrire à Paul, c'est « en tant qu'élu de Dieu ». Et Jésus parle à des élus de Dieu. Et c'est à des élus de Dieu qui ont cru en lui, qui sont ses disciples, qui n'ont pas tout compris, qui vont encore beaucoup évoluer. Mais c'est aux siens qu'il fait dire « Remets nos dettes comme nous avons remis ». Autrement dit, écoutez-moi, mes élus, mes rachetés, soyez sérieux. Soyez sérieux. Ne venez pas devant votre Père en disant « Remets-nous nos dettes, remets-nous nos dettes » et puis allez étrangler votre frère ou sœur qui vous a offensé. Et pour moi, le premier, je dis, soyons sérieux. Si c'est pour Dieu, que ce soit l'aumône, la prière, le jeûne et toute la vie, si nous vivons pour Dieu plus que pour nous-mêmes, soyons sérieux en tout domaine. Et Jésus appuie particulièrement, voilà, pour ce qui est du pardon. Pardon reçu qui fait notre salut pour l'éternité et du coup, pardon donné. Et Jésus, hein, au verset 14, on l'a lu, « Si vous pardonnez aux hommes, Dieu vous pardonnera. Si vous ne pardonnez pas. » Donc, vous voyez, ça c'est dit à ceux, en fait, qui ont été déjà pardonnés pour commencer. Pardon, 30, c'est l'heure de s'arrêter. Je vais essayer de ne pas le faire trop brutalement. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, littéralement ne nous conduit pas en tentation. C'est-à-dire, Jésus nous fait confesser que même le domaine de la tentation et tous nos problèmes face au tentateur, au diable, ça c'est dans les mains de Dieu. Si vous voulez, il n'y a pas que le diable et nous. C'est surtout Dieu et nous, et le diable est là aussi. Alors, il n'est pas omniprésent lui, hein, mais bon, il est le tentateur. Donc, ne nous conduis pas en tentation, puisque c'est toi. Il nous fait confesser que c'est Dieu qui conduit tout. Et que même si on est tenté, si lui ne le permettait pas, ben on ne le serait pas. Preuve en est qu'on ne l'est pas toujours. Et plus ça va, moins on est tenté, en gros. Mais délivre-nous du malin, et donc toujours cette confession, notre Père, nous on ne va pas se délivrer tout seul, mais toi tu es aux cieux, tout est à toi le règne, la puissance, la gloire, délivre-nous du malin. Et cette demande, que, oui bien sûr, j'en ai besoin jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle. Voilà, et donc je conclus en reprenant les derniers mots du verset 18, en relisant la dernière phrase, « Ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu vis pour lui, tu te confies en lui, et lui il donne et il rend. » Alors oui, notre Père, nous nous inclinons devant toi avec reconnaissance, avec un bonheur profond. Nous te bénissons parce que nous aussi, nous ne sommes pas individuellement, pas seulement seuls devant toi, mais ensemble. Et, ah oui, que ton nom soit sanctifié. Révèle-toi comme le Saint. Révèle-toi comme le Roi. Révèle-toi comme Dieu seul sage, seul juste. Le seul dont la volonté est bonne, agréable et parfaite. Amen. Amen. Chantons ensemble un chant qui confesse ces mêmes paroles que Jésus nous enseigne et qui sont finalement comme une table des matières de toute notre vie de prière. Du début jusqu'au décès, toute ma vie de prière, elle a une table des matières, et la table des matières, c'est ce qu'on appelle le Notre Père. Amen.